hors champ. Champ, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous ce soir en compagnie de David Graeber. David Graeber, vous êtes anthropologue, auteur de nombreux textes, dont certains ont été traduits en français, pour une anthropologie anarchiste, Dette, 5000 ans d'histoire, La démocratie aux marches, Comme si nous étions déjà libres, Des fins du capitalisme, Possibilité 1, qui a été publié en 2014. Donc nous examinerons les possibilités 2, 3 et 4 de la fin du capitalisme avec vous, j'imagine, tout au long de cette émission. Certains, ils sont nombreux, de plus en plus nombreux, disent que vous êtes l'un des hommes les plus influents du monde. Alors, on verra si c'est vrai. Oui, vous. Parce que vous êtes utopiste, parce que vous êtes parti de l'anthropologie comme terrain d'investigation et de réflexion, et c'est votre propre pratique, et vous avez été un élève de l'éminent Marshall Salins, et que vous êtes affronté ces dernières années à la notre réalité sociale et notre réalité de la globalisation mondiale. Mais avant de comprendre votre itinéraire, votre militantisme, j'aimerais savoir comment vos parents, qui étaient déjà des militants, vous ont éduqué. Avaient-ils des principes d'éducation ?
Oh well, yes. I was born quite late in my parents' life.
Je suis né à une époque tardive de la vie de mes parents.
They were actually children of the 30s, and my father actually fought in the international brigades in the Spanish Civil War.
Dans les années 30, mon père faisait partie des brigades internationales.
He drove an ambulance.
Il était chauffeur d'ambulance.
My mother was a factory worker.
Elle travaillait en usine. Elle cousait des soutiens-gorge, des choses comme ça. Mais elle était impliquée aussi dans le théâtre au travail.
And there's a famous production of
Il y a une production d'une comédie musicale célèbre qui s'appelait Pins and Needles, Aiguilles, et j'étais impliqué là-dedans. Et ma mère avait un rôle principal là-dedans.
It became a kind of surprise hit during the late 1930s.
Et en fait, c'est devenu un succès assez étonnant aux États-Unis à la fin des années 30.
She went from being a factory worker
Donc elle est passée de travailleuse en usine à devenir une étoile célèbre, et avant de redevenir une travailleuse en usine, une ouvrière.
Comment vos parents ont-ils vécu la période de la guerre ?
Went into the merchant marine.
Mon père était dans la marine marchande.
He told me that he realized that he would never be a foot soldier because he couldn't obey orders.
Il m'a dit qu'il pouvait pas se faire à l'idée d'être dans l'infanterie parce qu'il était incapable d'obéir aux ordres.
Actually, the story he told me was,
l'histoire qu'il m'a racontée, c'est que
when they crossed over the Pyrenees into Spain,
quand ils ont passé les Pyrénées pour aller en Espagne, pour rejoindre les brigades internationales, ils ont eu une formation de base. Ils devaient sauter au-dessus de barrières et ramper pendant que les gens tiraient la mitrailleuse au-dessus de leur tête. Et pendant qu'il attendait dans les rangs, il a demandé à l'officier, les gars là qui tirent à la mitrailleuse, est-ce que ce sont des gens qui ont de l'expérience ou c'est des nouvelles recrues aussi? Non, c'est des nouvelles recrues. Ils ont commencé hier. Mais moi, je ne veux pas faire ça, ils ne savent pas ce qu'ils font.
And the first of the men got very angry and he called up his commanding officer and he
said, well, you have a driver's license. Et il lui a demandé après, est-ce que tu as un permis de conduire? Il a dit, bon, d'accord, allez, toi tu feras ambulancier. Donc pendant la guerre, il était en mer.
Vous êtes né en 1961, donc bien après la fin de la Seconde Guerre mondiale, vous êtes né dans une période de plein emploi. Est-ce que vous avez eu l'impression d'être un enfant du baby-boom, David Graeber ?
Non, mon frère était un baby-boomer. Il est né en 1951.
I was kind of an afterthought,
and moi, j'étais un ravisé, comme on dit en France. Je suis plus de la génération qui est venue après moi. J'étais entre deux générations, disons. Mon expérience, c'était, je suis arrivé au moment où tout arrivait à sa fin.
Et en même temps, où tout était possible. Quand vous étiez étudiant, si vous aviez voulu rentrer dans le monde du travail et changer de boulot, quand vous le souhaitiez, vous étiez certain de pouvoir retrouver un autre travail.
Well, I think that was true. It was just still true.
C'était encore vrai, je pense.
But even at the time I was going into graduate school,
les gens ne trouvaient plus tellement de travail. Vous savez, c'était comme si c'était une rivière qui s'asséchait derrière moi.
I think I just managed to squeak through. I was the
very last
generation.
Je suis juste passé entre les gouttes. J'étais la toute dernière génération. Ou si on venait d'une famille de la classe ouvrière, il était encore possible de Mais même dans mon cas, c'était déjà dur. Vous savez, moi, j'ai été mis dehors de l'Académie américaine.
Pourquoi ? Parce que vous êtes trop turbulent, dangereux ?
C'est une longue histoire.
I was in Yale.
J'étais à Yale.
And they canceled my contract without
Et ils ont annulé mon contrat absolument sans raison.
It seems fairly clear it was political.
Mais enfin, c'est très clair, c'était politique.
Alors justement, le militantisme, vous considérez-vous comme militant ou comme un penseur de l'altermondialisme, ou les deux à la fois?
I've always tried to be both.
J'ai toujours tenté d'être les deux.
I considered myself an anarchist from the time I was very young.
Je me considère comme anarchiste depuis mon enfance.
And that's partly owing to the influence of my
Et
father.
Et c'est dû à l'influence de mon père en partie.
He lived in Barcelona during
Il
the
a vécu
revolution.
À Barcelone pendant la révolution.
And I always say that most people.
Et je dis que la plupart des gens.
Most people don't think anarchism is a bad idea.
Ne pensent pas que l'anarchie est quelque chose de mauvais. Ils pensent que c'est tout simplement dingue. Les gens disent, ah ouais, ça serait bien s'il n'y avait pas de police, et si les gens pouvaient s'autogérer. Mais les gens ne sont pas comme ça, ça ne fonctionnera jamais. Et si on grandit dans une famille où ce n'est pas considéré comme étant fou, cette idée d'anarchie, alors c'est très attirant. Mais il n'y avait pas véritablement de mouvement avec lesquels je me ressentais une affinité assez forte.
Donc,
je suis devenu un universitaire, un chercheur, et il semblait que c'était ce à quoi j'étais bon. Et à l'époque où j'étais à Yale, j'enseignais un cours sur le pouvoir, la violence et la cosmologie. Et j'ai quitté la conférence et j'ai regardé, il y avait un journal qui disait « La loi Marshall a été déclarée à Seattle ». J'avais aucune idée de ce qui se passait.
Some people ask me, well, you're an anarchist. Could you find out who these people are? What's going on?
Tu peux nous dire ce qui se passe là-bas? Qui sont ces gens-là? Tu peux faire une recherche là-dessus?
So I looked into it, and I discovered that the movement that I would always like to have existed.
J'ai découvert que le mouvement au sein duquel j'aurais tant aimé être actif, eh bien, avait en fait émergé pendant ce temps-là, pendant que j'enseignais. Donc, eh bien, évidemment, il fallait que je le rejoigne. Mais je l'ai rejoint comme un participant. Et c'est avec le temps, simplement. Pendant les deux premières années, j'ai rien écrit, je voulais simplement apprendre. Mais avec le temps, j'ai décidé qu'il y avait probablement quelque chose que je savais en tant que penseur, en tant que théoricien, qui pourrait être utile. Et j'essaie depuis de trouver des manières d'apporter mes ressources intellectuelles d'une manière qui serait utile pour pouvoir changer ce monde.
Alors auparavant, avant de devenir l'un des inspirateurs de Occupy Wall Street et d'une pensée nouvelle sur l'économie et sur les règles qui régissent notre monde, vous êtes passé par l'anthropologie. Et vous avez vécu à Madagascar. Qu'avez-vous appris dans cette quête anthropologique? Et est-ce que ça n'a pas été une source d'inspiration pour pouvoir comprendre justement l'évolution de notre société?
Yes. Well, I mean, the fascinating thing about Madagascar.
Mais vous savez, la chose fascinante au sujet de Madagascar, c'est que même si je me considérais comme étant un anarchiste, j'ai jamais été dans un endroit où que l'on pourrait décrire comme étant en dehors de tout État. Et par accident, je me suis retrouvé dans un endroit où l'État avait disparu. Et pour moi, c'était incroyablement excitant parce que je me suis rendu compte que une raison pour laquelle les gens rejettent l'idée d'une vie sans État, c'est que ça serait terrible à leurs yeux. En fait, si on éliminait la police, s'il n'y avait pas de règles, eh bien les gens s'entretueraient. Hein, c'est ce que les gens pensent. Mais en fait, cet endroit où j'étais, c'est là que ça s'est produit. Il n'y avait plus de police. Et personne n'a commencé à s'entretuer. Ils continuaient leur vie comme ils le faisaient précédemment. Certaines choses sont devenues impossibles. On ne pouvait plus prêter de l'argent à intérêt. On ne pouvait pas employer de la main-d'œuvre. Mais les autres choses, oui, tout se passait correctement. Donc pour moi, c'était la chose qui m'a le plus inspiré.
Et
les gens avaient un moyen de s'organiser par un processus démocratique. Et plus tard, je suis retourné en Amérique, j'étais impliqué dans le mouvement de l'intermondialisation, et les gens, ce que j'ai appris, tentent de recréer des formes d'organisation démocratique. Les gens de Madagascar et dans d'autres régions du monde savent très bien déjà comment le faire. Donc voilà, c'est les Américains, nous pensons que nous sommes une société très démocratique aux États-Unis, mais on n'a aucune idée comment organiser un meeting de façon démocratique, tout simplement. Il
n'y
a aucune occasion où les Américains se rencontrent à 20 ou 30 et prennent des décisions sur une base égalitaire. On ne savait pas comment le faire. C'était très difficile. On se prenait la tête pour savoir quels étaient les mécanismes, les règles. Et je me suis rendu compte que ce que nous faisions, c'était d'essayer de créer un processus qui est tout à fait naturel pour les gens de Madagascar. Et ils ont grandi avec ça.
Oui, mais c'est à Madagascar. Donc, est-ce que vous pensez que ce modèle, qui a d'ailleurs été aussi analysé très finement il y a une quarantaine d'années par un autre grand anthropologue qui s'appelait Pierre Clastre, qui chez des Indiens avait réussi à cartographier le fonctionnement d'une société sans État. Est-ce que vous pensez que pour autant un modèle qui a été observé par l'anthropologie, comme vous, comme Pierre Clastre, peut être dupliqué dans notre société occidentale?
Certains éléments peuvent être dupliqués. Toutes les sociétés sont différentes, évidemment.
Mais
comme je l'ai dit, nous essayons de réinventer des formes extrêmement fondamentales de processus que les gens savent très bien faire. À un niveau beaucoup plus complexe, il y aurait besoin d'autres institutions. Mais vous savez, c'est d'abord les briques de base qu'il faut apprendre. Et après, on peut se projeter vers un niveau beaucoup plus élevé. Par exemple, une des principales innovations que les gens ont introduites quand on parle aujourd'hui, c'est une loterie, par exemple. Quand on veut créer un niveau de représentant, les élections ont toujours été considérées comme la façon aristocratique de se choisir des dirigeants. En tout cas, à travers l'histoire européenne, en tout cas. Et la façon démocratique, c'était en fait une loterie, en fait. C'était ça. La loterie. Nous essayons de déterminer quels sont les mécanismes qui fonctionneraient dans des organisations plus importantes pour unifier les groupes. Et les gens n'ont pas réfléchi à ces questions. Il y a beaucoup de travail qui doit être fait là-dessus. Mais en fait, la limite, il n'y en a pas.
Nous allons écouter la voix de Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu qui vous avez d'ailleurs remarqué quand il enseignait aux États-Unis. Pierre Bourdieu au micro de Pascal Casanova qui va parler de lui, observateur des autres. C'était une archive du 23 juin 1990.
Vous avez dit j'ai observé les intellectuels. C'est vrai, je m'observe même les observants. C'est-à-dire que je peux même, sans toujours le dire, parce que je ne suis pas masochiste et que je ne veux pas faire trop plaisir aux gens qui me lisent. Je peux même soupçonner le plaisir que j'ai, évidemment, parfois, à observer les autres et à les épingler un petit peu, quoi. Bon, pas méchamment. Donc, c'est vrai que j'ai une sorte de vigilance professionnelle qui m'interdit des postures qui sont non seulement normales, mais approuvées et encouragées par l'institution littéraire, et tout particulièrement par les institutions comme France Culture, enfin, qui sont des lieux où il est légitime de parler de soi, non seulement légitime, mais nécessaire. Voilà. Donc tout ça fait que je suis mal à l'aise dans cette situation-là, non pas seulement parce que je suis pris au piège de l'arroseur arrosé, c'est ce qui serait trop simple, mais aussi parce que, ça serait un deuxième niveau d'explication, parce que en livrant un certain nombre de confidences ou de confessions ou d'aveux à propos de, je sais pas, de mes goûts, de mes couleurs, de mes préférences, je peux donner des armes aux gens qui utilisent contre la sociologie ce qui est l'arme la plus élémentaire, l'arme du relativisme, ce qui veut dire bon, votre description, système explicatif est biaisé par le point de vue que vous occupez dans l'espace social. Bon. Alors qu'en réalité, je pense que tout le travail scientifique est un travail à la fois sur l'objet, un travail de recollection de données, d'interviews, d'enquête, d'analyse, etc., etc. Et tout le travail sur l'observateur, bon, qui est un travail de critique, d'exploration des adhérences, enfin, à l'objet, d'exploration même du plaisir qu'on peut avoir avec l'objet. Bon, toute cette espèce de travail aboutit qui est la condition du discours scientifique, peut être détruit par cette espèce de relativisation simpliste. On peut dire, bah oui, finalement, c'est un point de vue de prof ou de ci ou de ça. Bah oui, il parle plus comme avant depuis qu'il est au Collège de France. Hein, des âneries comme ça. Mmh. Donc, c'est vrai que j'ai à protéger non pas moi, mais mon discours. Ce qui ne veut pas dire que je récuse l'idée que moi, en tant que personne, Pierre Bourdieu, je sois objectivable. Je suis objectivable comme tout le monde. Et ce que je dis d'ailleurs, je dis, moi, comme tout le monde, j'ai à peu près les goûts et les couleurs qui correspondent à ma position dans l'espace social que je décris.
Alors, Pierre Bourdieu a été important dans votre itinéraire, David Graeber, pour plusieurs raisons. D'abord, il vous a remarqué en tant qu'étudiant brillant. Ensuite, j'aimerais savoir ce qu'a apporté dans vos théories les livres et la pensée de Pierre Bourdieu. Et d'autre part, sur l'itinéraire personnel, Pierre Bourdieu est un immense savant, mais il a été aussi saisi par le désir de l'engagement et du militantisme. Il a même eu l'idée de se présenter au présidentiel. Il a été très actif au moment des grèves de 95 en France. Et donc, je voulais savoir pour vous ce que vous avez apporté Bourdieu et comment vous conjuguez à la fois votre rôle de penseur, de figure maintenant reconnue internationalement, de penseur libertaire, et votre engagement politique.
J'ai toujours ressenti une affinité extrêmement forte avec Pierre Bourdieu. Parce que, d'une certaine manière, en dépit du fait que Bourdieu dit qu'il ne veut pas parler de lui, dans cette perspective de relativisation, mais tout ce qu'il a dit toujours était toujours autobiographique. C'était un autodidacte, il venait d'un... Il est venu du même terreau. Certains des phénomènes qu'il décrit sont exactement ce que moi j'expérimentais dans ma propre vie. Vous savez, la classe sociale est tellement déterminante dans la façon dont vous êtes perçu. En Amérique, on n'est pas supposé, censé parler de classe sociale, c'est une sorte de tabou. Mais néanmoins, ça détermine quand même quasiment tout. Donc toute mon existence a été une existence au sein d'institutions où je suis constamment, on me fait sentir que je n'appartiens pas à ce lieu et à ce milieu. Et c'est aussi son expérience aussi. Et c'est pour ça que on s'est tout de suite compris d'une certaine manière.
Que veut dire pour vous militer? Et est-ce que c'est au nom de vos idées que vous militez.
Yes, I mean, I feel that it's very strange. And again, this goes back to my background.
C'est très étrange, et ça remonte. On the one hand, I come from a working class background. Je viens d'un terreau d'une classe ouvrière. D'un autre côté, je viens aussi des gens qui étaient à la fois la classe ouvrière, mais aussi la classe active dans la société. Et j'ai participé, ils ont participé dans les événements mondiaux. Donc, je c'est pas quelque chose que je devais repousser. Pour moi, c'était naturel d'être impliqué dans les politiques mondiales. Même si je viens d'un endroit où il y a peu de ressources ou peu de capital intellectuel. Mais pour moi, c'est un simple sens de responsabilité envers les autres. Si je suis dans une situation où je peux faire la différence, il me semble que ce serait irresponsable de ne pas le faire. Et c'est surprenant la différence qu'un individu peut faire. Ce qui m'a étonné quand j'ai été impliqué dans cette action, c'est à quel point elle est efficace. Si on considère l'histoire de mon propre pays, il y a eu trois occasions différentes au cours desquelles il y a eu une mobilisation globale en termes de démocratie directe et d'action directe. Enfin, quatre maintenant. Il y a eu le mouvement des droits civiques, le mouvement antinucléaire, il y a eu le mouvement d'altermondialisation et bien entendu Occupy aussi, Occupy Wall Street. Et dans chaque cas, c'est très semblable à ce qui s'est passé. La classe dirigeante a paniqué, elle était terrifiée. Immédiatement, ils ont accordé certaines des demandes fondamentales du mouvement. Ils ont éliminer le mouvement le plus radical, le plus violent, et ils sont allés de l'avant. Que ce soit le Vietnam, les guerres par procuration en Amérique latine ou ailleurs, la guerre contre le terrorisme. Et maintenant, quelque chose de très semblable se produit. Donc ça montre que à quel point la classe dirigeante est véritablement effrayée chaque fois qu'il y a un mouvement de mobilisation qui n'entre pas dans les cases préétablies du système social. Donc, quand il y a cette conscience que l'on peut véritablement faire une différence sur le plan historique, c'est très dur d'y résister.
Alors, vous êtes un intellectuel très particulier parce que vous croisez l'anthropologie et l'économie, et ce, depuis une bonne décennie. Vous publiez des ouvrages très impressionnants parce qu'ils sont toujours argumentés sur le plan historique, sur le plan anthropologique. Et notamment ce gros livre qui s'intitule « Dette, 5000 ans d'histoire ». Parce que finalement, David Graeber, est-ce que la lutte pour notre avenir et la considération de la perpétuité de la dignité humaine ne passe pas par la compréhension des mots les plus simples. Par exemple, qu'est-ce que l'argent ?
C'est une question très intéressante à poser, effectivement. Quand j'ai commencé à lire les questions économiques et l'histoire de l'argent, je pensais qu'il y aurait au moins un consensus au sein du monde des économistes. S'il doit y avoir un consensus sur quelque chose de fondamental, ce serait sur l'argent, puisque c'est fondamentalement c'est le champ d'intervention de l'économie. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas du tout de consensus sur cette question-là. J'étais très surpris. Il y a différentes écoles avec des différentes définitions de ce qu'est l'argent. Certains pensent que c'est une matière première, d'autres que c'est une relation sociale. Et en soi-même, ça m'a frappé comme étant quelque chose qui en disait beaucoup. On a cette chose qui réglemente toutes nos chances de vie, nos occasions de vie, toutes nos relations sociales. Le facteur qui influence le plus sur l'avenir des nations, des individus, et personne ne sait véritablement ce que c'est. Donc, d'une certaine manière, j'ai écrit ce livre pour répondre à la question que je m'étais posée à moi-même. Mais aussi de comprendre le pouvoir moral, pas simplement de l'argent, mais de la dette. C'est la dette qui donne une puissance morale aux arrangements financiers, finalement. Pourquoi, même quand les gens voient les riches auxquels on efface les dettes, vous savez, Donald Trump chute et remonte 3-4 fois et tout le monde s'en fiche. Mais ils se sentent, eux, les gens, les autres, se sentent moralement obligés de repayer, de rembourser leurs dettes, même si ils ont des conditions qui sont absolument ridicules et inconcevables. Ça m'a frappé que s'il y a quelque chose qui tient le système, eh bien c'est ça. C'est la moralité du travail et la morale de la dette. Et il faut comprendre ce qu'est l'argent, ce qu'est la dette, avant de pouvoir défier le système.
À propos de Donald Trump, j'espère qu'il ne va pas continuer à son chemin vers la présidentialisation. Et est-ce qu'il y a une autre raison que justement l'argent pour qu'il se présente? Il a tout. Alors pourquoi il veut aussi devenir président?
Mais pourquoi tout le monde ou n'importe qui cherche le pouvoir? J'imagine que une fois qu'il y a suffisamment de richesse, toute chose devient un trophée. Il faut faire une collection de quelque chose pour mettre sur vos étagères. Nelson Rockefeller, c'était la même chose. Il avait tout l'argent du monde et il a tenté de devenir président. Les gens veulent savoir s'il y a quelque chose que l'argent ne peut pas acheter.
Alors, votre bouquin sur la dette, comme les autres, est très impressionnant parce qu'il comporte une bibliographie qui fait au moins 150 pages. Donc on voit bien que tout ce que vous argumentez est étayé. Et en même temps, on se dit que votre mode de pensée, c'est d'imaginer finalement une histoire vierge, des territoires vierges, et que vos propositions économiques, peut-être, sont des utopies et non pas des modes opératoires pour essayer de contrecarrer ce néolibéralisme que nous subissons depuis des décennies.
Je vois mon rôle comme fournisseur de perspectives pour que les gens prennent leurs décisions eux-mêmes. Je ne veux pas imposer de politique sur qui que ce soit, parce que moi je crois en la démocratie. Quand les gens me disent, eh bien, quel système économique est-ce que vous soutiendriez? Moi je dis, c'est pas mon boulot de venir avec le mécanisme d'un nouveau système. Vous savez, décidez pour vous-même quel type de qu'est-ce que vous voulez. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer les moyens grâce auxquels les gens pourraient avoir, eux, les moyens de décider pour eux-mêmes et par eux-mêmes quel est le système économique dans lequel ils veulent vivre. Leur donner les outils d'analyse pour savoir comment l'économie fonctionne. Vous savez, la connaissance de ce qui s'est passé déjà dans notre passé pour qu'il y ait une meilleure appréhension de ce qu'est l'économie et créer les structures institutionnelles pour que les gens puissent prendre des décisions de façon démocratique.
En même temps, ce que vous montrez à travers vos ouvrages d'économie consacrés à la dette ou au capitalisme, David Graeber, c'est que ce sont des comportements pas seulement économiques. Et s'ils sont économiques, ils découlent d'une manière de penser intérieure, donc d'une anthropologie culturelle. Notamment votre bouquin sur la dette, on voit bien que c'est le fruit d'une éducation à travers des successions de générations. Donc comment pourra-t-on inverser la tendance que nous subissons de la part d'une classe très très riche et qui devient de plus en plus riche par rapport à des pauvres qui sont de plus en plus pauvres et de plus en plus nombreux, parce que c'est dans la tête que ça se passe aussi.
Je pense que l'histoire nous donne des raisons d'espérer. Parce que quand on considère l'histoire, il est très vrai que la logique morale de la dette est extrêmement puissante. C'est le moyen le plus puissant de coercition et d'extorsion qui ait jamais été inventé. Et le faire passer pour quelque chose de moral et même faire croire aux victimes que c'est elles qui doivent être blâmées. Vous savez, C'est les mafieux qui utilisent ce langage de dette. Mais c'est vrai aussi si on considère l'histoire. Quand il y a des explosions sociales, c'est toujours sur des histoires de dette. Vous savez, les gens sont plus prêts à se révolter pour le remboursement de la dette qu'au sujet de l'esclavage ou un système de caste ou de servage.
Donc,
c'est un moyen extrêmement efficace de contrôle moral, mais quand ça échoue, ça échoue de façon très spectaculaire aussi. Donc comprendre l'histoire, non seulement ça vous donne un élément pour connaître quels sont vos pouvoirs, mais aussi quelles sont vos faiblesses.
Mais justement, le remboursement de la dette des pays pauvres vers les pays les plus riches, c'est ce que vous expliquez dans vos bouquins, David Graeber, n'est-il pas l'héritage d'un sentiment néocolonialiste et d'une attitude qui perdure à travers le temps ?
Oh yes, I mean it's extraordinary. Oui, l'exemple of Haiti is the most.
Par exemple, l'exemple de Haïti, c'est le plus scandaleux que je connaisse.
Essentially, Haiti after the revolution.
Haïti après la révolution.
The French government.
Le gouvernement français a imposé une loi pour les propriétés expropriées durant la révolution.
Et
les esclaves eux-mêmes qui faisaient partie de ces propriétés. Et donc finalement, les esclaves ont dû rembourser l'équivalent de milliards de dollars. Et je crois que ce n'a été entièrement remboursé, cette dette n'a été entièrement remboursée qu'en 1957. La structure internationale, y compris les Nations Unies, avait imposé un embargo et avait rendu la situation impossible pour Haïti d'échapper à cette dette. C'est devenu un impératif moral pour les relations. Et en fait, le régime colonial est remplacé par le régime de la dette. Et de ce point de vue-là, la véritable libération du Sud n'est pas venue dans les années 50, mais plutôt au cours de la dernière décennie, parce que le mouvement altermondialiste a été un succès. L'histoire est racontée de cette manière-là, mais si vous regardez ce qui s'est passé après la rébellion en Argentine en 2002, le gouvernement argentin, on lui a mis la pression parce qu'il y a eu un rejet de l'ordre social qui avait été imposé. C'est les anarchistes qui ont refusé ça.
La classe
politique argentine a dit il faut faire quelque chose de radical. Ils ont aboli la dette.
Et
ça a mis en marche une chaîne d'événements qui, finalement, a fait que le FMI a été expulsé de plusieurs endroits du monde. La dette latino-américaine est terminée. L'Asie du Sud-Est aussi. Le FMI a été renvoyé de l'Asie. Mais le FMI est toujours dans certaines parties de l'Afrique, très près de la banqueroute, mais il est sauvé surtout par l'Europe. Moi, je vois cela comme un processus d'effondrement de l'Empire américain. Je crois que quand les historiens vont considérer cette période que nous vivons actuellement dans un siècle, c'est ce qu'ils vont dire. C'est le succès de l'altermondialisme. C'était véritablement le premier mouvement dans la chute de l'Empire américain.
Vous pensez vraiment qu'il y a un succès des théories de l'altermondialisme et comment comprenez-vous que l'attitude de l'Europe soit très frileuse par rapport à l'effacement de la dette? Regardez l'attitude du gouvernement grec récemment qui a accepté l'obligation du remboursement de la dette. On a l'impression que c'est exactement le contraire, que même les gouvernements les plus à gauche de la gauche entérinent les règles de ce capitalisme que vous dénoncez ardemment, David Graeber.
Le gouvernement grec a très peu de choix. Ils avaient à faire face, sur le plan économique, à l'équivalent d'une guerre nucléaire.
Et
il y avait un plan pour créer une devise alternative, mais il y a eu tellement de pression et toute tentative de ce genre a été criminalisée. Ils n'ont pas pu le faire. J'étais au courant comprendre cela avant que ça se produise parce que je travaille avec un groupe d'économistes hétérodoxes qui travaillent sur des plans. Il y avait un plan en place pour créer une devise par téléphone, par exemple.
Mais
le mauvais calcul dans le cas de la Grèce, c'est que
Syriza
a pensé qu'il y avait un intérêt à conserver la Grèce au sein de l'euro et que ça leur donnerait un pouvoir de négociation. Ils ont découvert finalement que la plus grande partie du gouvernement américain aurait préféré le Grexit comme une façon de reconstituer l'Union européenne
et
de terrifier l'Espagne et l'Italie. C'était un jeu de circonstances, mais c'est très significatif. Ça se produit au sein des limites de l'Europe. Ça ne se produit pas à Taïwan, au Brésil. Ces pays sont libérés de l'austérité. Personne ne parle d'austérité en Chine, par exemple.
Mais la croissance n'est plus si forte.
Oui, mais ils ont eu la plus grande croissance du monde pendant des années. Ça ne peut pas durer éternellement.
Nous allons écouter la voix de Naomi Klein au micro de Daniel Mermet, qui va évoquer la notion de capitalisme de la catastrophe au moment de la publication, c'était en 2008, de son ouvrage « La stratégie du choc ». Une archive de là-bas si j'y suis, 9 janvier 2008.
I'm talking about an economic and political strategy.
Moi, je parle d'une stratégie politique et économique.
And the image of the theater is certainly a graphic one.
Et cette image du théâtre fonctionne très bien, effectivement.
But it's not simply that people run, it's also that they follow.
Mais pour moi, ce qui est important de dire, c'est que les gens ne courent pas pour la sortie, ils suivent.
And the question is who are they following and who is taking that leadership role.
Et là, toute la question est de savoir qui suivent-ils et qui leur montrent la sortie de ces théâtres en feu.
But the main reason why I focus on these states of shock and the exploitation of the states of shock.
Mais la raison pour laquelle moi je m'intéresse à cet état de choc et la façon dont on les utilise.
Is to challenge the central lie of neoliberalism, which is that it has conquered the world because the people of the world demanded it.
L'idée pour moi, ça a été de remettre en cause le mensonge sur lequel est fondé le néolibéralisme, qui est que les gens l'attendaient, qu'il est naturel.
Alors nous venons d'entendre Naomi Klein, j'imagine que vous souscrivez à sa vision du monde. Vous, dans votre dernier ouvrage « Des fins du capitalisme, possibilité 1 », David Graeber, vous parlez d'un après-capitalisme de la catastrophe. Est-ce que ce capitalisme est-il vraiment moribond ? Vous dites que vous êtes un intellectuel. Oui, vous êtes un grand intellectuel. Mais vous dites que vous ne faites pas de proposition. Or, à la fin de votre bouquin sur la dette, vous faites une proposition. Vous dites que il faut procéder à un jubilé de style biblique qui concernerait à la fois la dette internationale et la dette des consommateurs. Alors, deux questions. Pensez-vous que le capitalisme va mourir un jour ? Et pensez-vous que votre proposition de jubilé est-elle réellement envisageable?
Ce que j'ai suggéré, c'était quelque chose de conceptuel, une mesure conceptuelle.
Clean slate, both economically
en fait, c'est une ardoise vide sur le plan économique et sur le plan mental. Effacer l'ardoise. Qu'est-ce que l'argent? L'argent, c'est une série de promesses qu'on se fait les uns aux autres. Comme toutes les promesses normales, quand les situations changent, bah, il faut renégocier la promesse. Ce qui est étrange avec la dette, c'est qu'on ne le fait pas. C'était le point que j'essayais de soulever. C'est pas une mesure irréaliste. La plupart des gens ne savent pas que la première réaction de régimes comme ceux de l'Arabie Saoudite, quand le printemps arabe a débuté, c'était d'annoncer un jubilé de la dette. Toutes les dettes en Arabie Saoudite ont été effacées. Je crois que certains des États du Golfe ont fait la même chose. Les gens le font. Bien sûr, on efface les dettes des riches sans cesse. Donc, il n'y a pas de raison pratique pour laquelle on ne pourrait pas le faire.
On parle de
Naomi Klein et l'idée du capitalisme du désastre. Je crois qu'il y a quelque chose de très intéressant qui commence à se produire. Je crois que pendant 30 ans, chaque fois qu'il y a une catastrophe ou une crise, les néolibéraux l'utilisent comme un prétexte pour introduire encore plus de réformes néolibérales. Mais je pense que cette vague est passée. Je crois qu'il y a le sentiment que ces solutions ne fonctionnent plus pour les problèmes que nous avons aujourd'hui. Je me trouve à présenter mes idées devant des parlements, devant d'autres assemblées. Si ces gens me parlent et me demandent, moi, un conseil, c'est qu'ils doivent, eux, avoir véritablement de gros problèmes. Ils comprennent, eux, que quelque chose est fondamentalement mauvais, erroné. La montée de gens comme Corbyn en Angleterre, c'est le signe que les gens cherchent désespérément de nouvelles idées. Ils ont essayé toutes les idées de la droite. Il n'y en a plus.
Mais à gauche non plus, pas beaucoup.
Mais oui, c'est ça. Il y a des tas d'idées qui émergent à gauche. Personne ne les essaye, celles-là. Mais les gens commencent à dire, mais peut-être que ça va fonctionner. Il faut peut-être essayer. Vous savez, c'est l'avenir du globe, de la planète, hein, qui est en jeu. Ils cherchent une idée utilisable. Il y a des tas d'idées. Effacement de la dette, un revenu de base. De nouvelles notions de technologie. Et je pense que ça a été plus développé par la gauche. Donc, il est possible que, à une crise à venir, l'effet sera exactement inverse que ce qui s'est produit au cours des 30 dernières années.
Dernière question, vous êtes très jeune. Est-ce que vous pensez que de votre vivant, vous verrez la fin du capitalisme, David Graeber?
Moi, j'ai l'intention de vivre très longtemps. C'est possible.
It really depends on how you define it.
Ça dépend de quelle manière vous le définissez.
I was having an argument with some Marxists.
Moi, j'ai eu des débats avec des marxistes.
And I said, well, you're defining capitalism is based on
wage labor. Votre définition du capitalisme est basée sur le travail rémunéré.
But everybody says capitalism begins in
1500. Tout le monde dit que le capitalisme a débuté dans les années 1500.
You only get an industry and wage labor in a very big way in
1750. L'industrie, c'est dans 1750 que ça a commencé avec le travail salarié. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la première moitié de cette période, entre 1500 et 1750? Que faisaient-ils? C'était du capitalisme? Ah, où était le capitalisme?
Ils disaient,
non, ça évoluait vers le travail salarié. Les gens ne s'en rendaient pas compte à l'époque, mais ils étaient déjà dans le capitalisme.
Et
moi, je dis, mais si c'est vrai, comment est-ce qu'on sait qu'il y a du capitalisme maintenant? Peut-être qu'on a déjà dans une période autre et dont on ne comprendra les tenants et les aboutissants que dans un siècle. Parce que le féodalisme était toujours là, hein, dans les années 1600. Ça devenait de moins en moins important, c'est tout. Donc peut-être que quand les historiens vont écrire sur notre période, peut-être que le capitalisme a pris fin en 1975, allez savoir.
Merci David Graeber. Je rappelle les deux derniers titres de vos ouvrages, c'est Bureaucratie et dette, 5000 ans d'histoire aux éditions Les Liens qui Libèrent. Merci à Michel Zlotowski qui a assuré, comme d'habitude, magnifiquement cette traduction simultanée. Merci à Jean-Louis Deloncle, Élodie Royer, Corinne Amard et Didier Lagarde. Vous écoutez France Culture. Bonne fin de soirée.